Différentes associations travaillent à Toulouse sur la médiation numérique et l'initiation à la programmation auprès des enfants, dont notre coproducteur Combustible Numérique. Nous avons souhaité recevoir la Compagnie du Code qui organise régulièrement des coding goûtés à la mêlée numérique, ainsi que des courses de robots, des événements où des enfants découvrent la logique, l'informatique et la programmation, non pas d'une manière scolaire, mais au contraire amusante, créative et participative. Nous avons la joie de recevoir François de Rochebrune, gérant fondateur de l'opérateur de téléphonie Étoile Dièse, administrateur à la mêlée numérique, cofondateur de la Compagnie du Code, organisateur de la Toulouse Robot Race, dont la prochaine édition, je me suis planté, donc c'est 21-22 septembre, je suis désolé, vraiment désolé. Et enfin, scratcher sur écran dans les rave parties de robots. François, merci beaucoup d'être venu. Pour commencer, quelle fut ta première fois avec un ordinateur ?
Alors, je m'en souviens totalement. C'est milieu des années 70. Je rentre dans une pièce et il y a un gars devant un ordinateur. Alors, vous en parlerez dans les prochaines éditions, là, Silicium. C'était un PET. Le PET.
De Commodore, si je me souviens
voilà,
bien.
Voilà, ouais. Exactement.
Ouais. Et donc, c'est vrai que c'était un très bel objet, mais en même temps, les capacités...
Écoute, ça marchait très bien, c'était génial. Et cette personne qui était devant le PET parlait de l'ordinateur en le personnifiant, en disant « Là, maintenant, il va tricher ». Alors, il avait programmé le jeu « Le compte est bon », un jeu où il faut mélanger des chiffres. Et il parlait de l'ordinateur, il m'a invité à venir, il m'a dit « Regarde, là maintenant, il va tricher ». Et j'ai halluciné. Voilà. premier rapport à la programmation, à l'ordinateur, à le personnifier. Et voilà, et j'ai commencé à faire du code sur un PET, milieu des années 70. Et ça a orienté toute ma vie, puisque ça fait 40 ans que je suis informaticien, personne n'est parfait. J'en ai fait ma carrière, ma vie professionnelle. Et ouais, mon destin était tracé.
T'en as pas fait que ta carrière, t'en as fait aussi une réelle passion, et c'est justement cette passion quand même que tu transmets.
Clairement, cette découverte a été passionnante, et je n'ai eu de cesse que de continuer à creuser, à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. En même temps, j'avais pas envie de mettre de pièces dans les machines,
bornes d'arcade,
voilà,
ouais.
Dans les bonnes d'arcade. Donc assez rapidement, j'ai réussi à avoir un petit ordinateur. C'était je ne sais pas s'il y en a chez Silicium, c'était un TRS-80.
Tandy. Ouais,
de chez Tandy, ouais. Puisque à Toulouse, il y avait quand même pas mal de boutiques dans ces années-là.
Oui, ils en avaient 7-8.
Oui, voilà, dont un Computer Center, place ouais. Saint-Aubin.
Je tiens à saluer d'ailleurs la mémoire d'un ami, Philippe, qui était en charge d'ailleurs des magasins de l'époque.
Philippe Post.
Exactement, qui après, hasard de la vie, a tenu après une boutique spécialisée dans les livres de marine. C'est amusant.
Exact.
et c'est resté... Dans l'apprentissage en tant que dilettante, en tant qu'amateur et tout ça, où tu es passé par l'éducation aussi institutionnelle, professionnelle ?
Non, j'ai tenté, mais là on parle des années 80, début des années 80, j'ai tenté un passage par la fac, mais à ce moment-là, à Rangueil, à ce moment-là, on n'apprenait pas grand-chose en informatique. J'ai perforé quelques cartes.
Dans les années 80.
Voilà, pourtant, c'était... Voilà, il y en avait encore. Non, je pense que tout ce que j'ai appris, et c'est un peu ce qu'on en parlera tout à l'heure avec les enfants, c'est ce qu'on essaye d'apprendre aux enfants. Quand, moi, on leur apprend à apprendre. Voilà. Et moi, j'ai appris en apprenant, et quasiment seul.
Est-ce que tu avais déjà participé à un atelier d'éducation technique avec des enfants avant de monter le Coding Goûter Toulouse ?
Non, moi, mon expérience au départ, je suis formateur en informatique. Donc, effectivement, je donnais des formations au langage de programmation. J'ai fait pas mal de support, d'assistance technique. Donc, j'avais cette habitude de donner des formations, mais plutôt aux adultes. Non, les enfants, ça a été une découverte, ça a été même un grand moment, quoi, parce que c'est fabuleux de les voir. La joie de la réussite de la ligne de code qui déclenche tout, quoi, qui marche. Quoi, c'est tout simplement, ça marche. Et ça, c'est énorme, quoi, pour les enfants.
Ça, puisque donc on enregistre donc une série d'émissions et notamment avec nos amis donc de Silicium quand on
dans quelques semaines.
Voilà, qui sera diffusé dans quelques semaines avec des MO5 et des TO7. Ça t'a fait un petit frisson de retrouver ces bécanes.
Oui, même si moi je les ai pas touchés, celles-là, je les ai vues, mais j'ai pas une grosse expérience sur ces sur ce matériel. Mais j'étais pas tellement à l'école non plus à ce moment-là, donc.
Quand est-ce que tu as découvert Scratch ?
Alors Scratch, ça fait 5-6 ans, pas au début, c'est quand on a lancé l'idée de... Moi franchement j'en sais rien de Scratch, je m'en souviens pas, il y a quelques années, peu de temps avant de lancer les coding goûtés, quoi. C'est une recherche sur Internet, une rencontre avec ceux qui avaient créé le concept à Paris, qu'on a rencontré d'ailleurs même avant de lancer ça. Je rappellerai que les coding goûtés, c'est une marque déposée qu'on est autorisé à utiliser.
Vous êtes un chapitre officiel à Toulouse.
Oui, puis surtout à une seule condition. C'est-à-dire n'importe qui peut organiser des coding goûtés, mais il ne faut pas les confondre avec des ateliers d'apprentissage de l'informatique. Le coding goûté, c'est des enfants et des accompagnateurs, souvent les parents. Mais voilà, il faut que l'atelier se déroule avec les enfants et les parents qui sont à côté et qui d'ailleurs apprennent au moins autant que leurs enfants. Il faut leur retirer la souris des mains parce que...
On verra ça tout à l'heure justement sur l'organisation. Du coup, quand tu as découvert Scratch, ça t'a fait quoi de voir cet environnement avec des briques, des espèces de briques de Lego programmées ?
Ouais, j'ai halluciné parce que j'avais suivi le logo, quoi, je connaissais bien la tortue, etc. Donc là, pour la première fois, j'ai découvert un environnement complet et avec tous les concepts de l'informatique. Quoi. Enfin, on peut en parler parce que c'est une information, une émission technique là, qu'on fait là.
Mais tu peux. Hein, on mettra des références à côté si besoin.
Il y a les boucles, il y a les tests, il y a les variables, il y a les threads, il y a la gestion de messages. C'est un environnement totalement intégré qui contient tous les concepts de la programmation. Après, effectivement, c'est un assemblage
avec
graphique.
Avec un mode, en plus, c'est événementiel, donc ça change complètement du programme traditionnel.
Complètement événementiel, multithread, hein, les applis, les petits jeux qu'on arrive à développer avec ça sont multithreadés, quoi. On a un lutin qui bouge dans un coin et un autre qui bouge dans un autre coin, chacun étant piloté par son bout de code et avec les interactions possibles, les problématiques de partage de données éventuellement. Enfin, des vrais problèmes d'informaticien peuvent apparaître, même avec Scratch, alors qu'on pourrait penser que ça, pour des enfants, c'est des concepts compliqués, même ils arrivent à comprendre.
Et point de vue électronique, tu es plutôt Arduino ou Things ?
Alors à la compagnie du code, on fait les deux. On a fait du SyncZ, au début.
On rappelle, hein, SyncZ, c'est une boîte toulousaine qui a fait en fait une espèce de plateau blanc à picots dans lequel on enfonce un afficheur, une diode électrosensible, des trucs comme ça. Et c'est surprenant, quoi. Ça marche, on le pilote de son ordinateur, il n'y a pas besoin de réfléchir, c'est extraordinaire.
C'est un excellent outil pédagogique, on recommence à en faire avec eux. Là. On en a eu fait il y a 2 ans, et puis certains animateurs sont orientés plus sur Arduino parce qu'ils voulaient aller un petit peu plus loin, et en termes de composants électroniques, il y avait un petit peu plus de choses. Et là on recommence, là, on fait des ateliers avec eux, avec leur matériel.
C'est vrai que Enfin, c'est magique, il faut les inviter pour en parler et tout ça.
Oui.
Et c'est vraiment à voir. Coding Goûté est un mouvement national, ça tu en as parlé, qui en plus est protégé. Donc derrière, il y a un modus operandi précis à suivre. Qui c'est qui l'a monté derrière ?
Alors, j'ai un trou de mémoire, je pense qu'il y a Raphaël Pierquin, un des fondateurs, ils étaient deux. Raphaël Pierquin, c'est un prof de l'université, Paris 6, Paris 2, enfin... Moi, je suis toulousain, donc à Paris, je ne sais pas comment s'appellent les universités, qui a lancé ça face à ce constat. Quoi, il a eu des enfants et il a voulu transmettre sa passion de la programmation. On y reviendra. Hein, la programmation, c'est un acte de création pure, au même titre que la peinture, la composition musicale. La programmation, c'est un cheminement intellectuel de création. Voilà, c'est une création pure, ultime. Et donc voilà, ça vient de Paris. Je crois qu'il y a eu des expériences similaires en Irlande, aux États-Unis, avec les coding dojo.
Coding Dojo, ça c'est plus pour du professionnel. Hein.
Bah, je sais pas, je pensais que c'était pour les petits, mais...
Non, je te confirme que c'est des journées qui sont pour les pros.
Ok, d'accord, je pensais que c'était pour les enfants. Et donc voilà, et en France, je pense que c'est eux les premiers, qui ont Raphaël Pirquin et un de ses amis dont le nom m'échappe.
D'accord. Il y a combien de chapitres Coding Goûté sur la région, sur la France, pardon ?
Alors, il y a un site codinggoûté.org qui les recense tous. Donc, si vous écoutez l'émission de plus loin que Toulouse, vous pourrez les trouver pour chaque ville de France. Je ne sais pas, mais c'est régulier, tout le temps. Enfin, tous les week-ends, il y en a près de chez vous, sûrement. Nous, à Toulouse, on en fait principalement une fois par mois. Ça, c'est ouvert, gratuit et ouvert à tout le monde. Après, on les organise sur mesure, sur demande d'un enseignant, d'une collectivité, d'une association de parents d'élèves. Et surtout, on accompagne des futurs animateurs pour qu'ils puissent continuer à le faire. C'est-à-dire que nous, on est là, effectivement, au début pour montrer.
Pour bootstrapper,
voilà.
En fait.
L'idée étant d'essaimer et d'accompagner des projets, même le plus loin de Toulouse, quoi, parce qu'il y a il y a des endroits où ça n'arrive pas. Malheureusement, le code n'arrive pas au fond du commun gistant. Et il serait temps que
ça bouge un petit peu là-bas. Oui. La compagnie du code ne fait pas que ça. Donc, une semaine et demie en fait, après la première diffusion de cette émission, il y aura donc la Robot Race qui aura lieu 21 et 22 septembre. Cette fois-ci, j'ai noté, je ne me plante pas. La Robot Race, en fait, c'est arriver à faire 100 mètres à un robot, c'est ça ?
Oui, alors là, on parle de la catégorie d'une catégorie, qui est la catégorie roulant, parce que c'est une course effectivement de vitesse, mais... Les robots ne sont pas tous les mêmes et ne jouent pas dans la même catégorie. Donc il y a trois catégories.
C'est pas la peine d'essayer d'arriver avec voiture autonome. Quoi.
Bah, disons que la piste est peut-être un peu trop petite.
Ah mince.
Mais disons que les robots humanoïdes, les piétons, on ne peut pas leur faire faire 110 mètres. Ou alors, ils vont mettre une demi-heure. Quoi. Donc, mais par contre, les roulants, oui, effectivement, ont une piste de 110 mètres de long à faire. Alors que les piétons n'ont que 10 mètres à faire.
Donc ça, c'est devant, si je me trompe, c'est devant le Quai des Savoirs et c'est une inscription qui est ouverte à un petit peu tout le monde.
Tout le monde, là, cette année, il va y avoir 33 machines, il y a plus de 20 équipes, dont des gens qui viennent de Bordeaux, de Lyon, de Belgique. Et il va y avoir, ça se déroule sur 2 jours. Le vendredi, il y a des essais. Donc, si vous voulez venir voir, donc effectivement, sur les allées devant le Quai des Savoirs, devant le muséum, toute la journée de vendredi, il y a les compétiteurs qui vont s'entraîner, calibrer leur machine. Et après, la course a lieu le lendemain, le samedi après-midi. Et là, on vise, ça va être chaud, puisqu'il va y avoir à peu près un départ toutes les 3 minutes. Donc, les organisateurs. On va avoir du boulot.
Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous parlons d'apprendre le numérique avec François de Rochebrune, donc, qui est fondateur des Coding Goûté sur Toulouse. François, qui participe à l'organisation justement de ces Coding Goûté ?
Alors on fait appel aux bénévolats très, très souvent, quoi, parce que... parce que c'est des ateliers qui sont où il y a beaucoup de monde. Un coding goûté, c'est une vingtaine de familles. Donc ça fait rapidement 40 personnes. Tout le monde peut en organiser, hein, d'ailleurs. Hein. Il suffit d'avoir une pièce suffisamment grande, quelques PC.
Je pense qu'ici, il y a la place.
Là. Ici, il y aurait la place, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on a l'habitude d'en faire un peu partout. Quoi. On en fait à Ramonville, on en fait au Quai des Savoirs, on en fait à la cantine rue de Buisson, la Nova Mêlée. Donc en général, on a 7 ou 8 animateurs. On fait appel à des étudiants, souvent, qui sont en position justement d'apprendre et de les mettre de l'autre côté en tant que formateurs. Donc, ils assistent hein, une première fois. On ne les lance pas tout de suite pour animer un coding goûté, mais ils assistent à un coding goûté, un deuxième. Et après, ils se retrouvent en position, alors qu'ils sont étudiants, ils apprennent l'informatique, ils se retrouvent de l'autre côté à être eux-mêmes les professeurs vis-à-vis des enfants. Et dans un cursus d'étudiants en informatique, c'est un bon point. Donc voilà, donc pas mal de bénévoles, évidemment les permanents de la compagnie du code sont là. souvent des filles. On aime bien montrer que, ben voilà, quoi, que l'informatique, c'est un métier aussi qui s'adresse aux filles. Et les filles sont les meilleures ambassadrices hein, pour montrer que le code est possible. Donc voilà, donc y a des professionnels de l'informatique qui décident de nous aider à la compagnie du code. Et puis voilà, et tout le monde est invité. Donc il n'y a pas de limitation. Tout le monde peut venir à un comité.
Il vaut mieux s'inscrire quand même.
Alors, il faut s'inscrire.
Ouais. Il y a une mailing list
Sur le site de la compagnie du code. Voilà, tous les ateliers, y compris les coding goûtés, sont inscrits. Et oui, effectivement, parce que plus de 20 personnes, ça commence à devenir compliqué.
J'imagine.
Donc voilà, on s'inscrit à l'avance. Si on a un PC, on vient avec son PC portable. Si on n'en a pas, on en demande un et on peut en mettre à disposition. Et donc voilà, ne serait-ce que pour la logistique, parce qu'après il y a un goûter, hein, coding. Goûter,
oui. On fait du code. C'est vrai que ça, on a oublié de le raconter.
Voilà. Au bout de 2 heures, on s'arrête, on mange des bonbons, des gâteaux. Et là, d'ailleurs, les enfants, il faut les descotcher, quoi. C'est compliqué.
Ah, c'est-à-dire que la bouffe est vraiment prévue pour qu'ils quittent l'écran.
Voilà, on leur dit, il y a des bonbons, il y a des gâteaux, mais ils restent scotchés. Ils ont envie de terminer leur jeu.
C'est génial. On
n'a pas eu le temps de le dire, mais lors d'un coding goûter, en partant de zéro, hein, des enfants qui viennent juste d'apprendre à lire, on leur fait faire un véritable jeu vidéo qu'ils ont programmé de A à Z.
C'est génial, du coup, qu'ils soient scotchés là-dessus, quoi.
Voilà, avec du design graphique et de la vraie programmation. Et je parlais de création pure, quoi. On leur donne le même cahier des charges quelque part, un cahier des charges assez flou, exprès. Et à la fin, on a 20 jeux vidéo différents avec le même cahier des charges. De même que si on avait mis 20 peintres devant la mer, on aurait eu 20 tableaux de la mer différentes.
Donc, c'est génial. Voilà, et du coup, il y a une réelle émulation et tout ça entre eux
Complètement. Ouais. Après, ils sont contents de montrer ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, ils comparent. Le goûter est là aussi pour tisser des liens. Et après, pourquoi pas aller plus loin. C'est vraiment mettre le pied à l'étrier. Quoi. C'est la première accroche parce que, bah, pareil que la musique, quoi, la programmation, et notamment avec Scratch, quoi, on peut en faire pendant des heures et des heures. Quoi. Il n'y a que la seule limitation, c'est l'imagination. Et comme c'est des enfants, ils ont une imagination débordante. Donc, ils sont capables de faire des milliers de jeux.
Bah, c'est super. Quelle tranche d'âge peut y venir? En fait, ça commence sincèrement à partir de quel âge?
Alors, nous, on dit, au début, on disait qu'il faut savoir se servir d'une souris. Mais en fait, les enfants savent... Contrairement à ce qu'on pense, ils savent déjà se servir d'une souris alors qu'ils ne savent pas lire. Donc voilà. Donc au début on disait ça. Au début on disait ça, mais en fait non, c'est dès qu'ils savent lire. Ouais, c'est 7 ans quoi. Enfin, je veux dire, avant 7 ans, même si la programmation est très à la mode, y compris dans l'éducation nationale, bon, avant 7 ans, il y a d'autres choses à apprendre que l'informatique, même si c'est passionnant. Je sais pas, savoir dessiner des bonhommes avec des mains avec 5 doigts. Voilà, si les enfants ne savent pas dessiner des mains à 5 doigts, c'est pas le moment de venir au coding goûter.
Dommage pour les personnages de Disney. Est-ce que les parents peuvent y participer même s'ils y connaissent rien?
Alors oui, de toute façon, pour le coding goûter, c'est obligatoire. Il faut qu'il y ait les parents à côté.
Il faut qu'il y ait les parents.
Il faut qu'il y ait les parents, d'accord. Parents ou accompagnateurs. Mmh. Souvent, c'est eux, ils essayent de prendre la souris entre les mains, quoi. Ils essayent de prendre la souris à leur gamin. Et donc, il faut les recadrer de temps en temps en disant aux enfants, dis à ton papa de lâcher la souris. C'est toi qui programme.
Vous êtes en train d'installer l'anarchie dans les foyers. Mais c'est horrible.
Après, pour ceux qui veulent véritablement...
Je te félicite, adultes, François, c'est très Startup Nation, ouais, le bottom to top.
Coding goûter, c'est pour les enfants. Quoi. Alors, pour les adultes, on organise des coding cocktails. Donc là, c'est plutôt le soir, à 18h,
allez,
19h.
On lâche la souris, il y a de l'alcool, il y a des rhums, là.
Eh bien, il y a un moment de convivialité, ouais, à la fin, un moment de partage, d'expérience. Et là, par contre, c'est effectivement réservé aux adultes. Bon, ça se fait dans le cadre dans les entreprises, quoi. Faire un peu de team building, ce genre de choses. Et puis, tout simplement pour désacraliser le numérique, quoi. Quoi qu'on en dise, il y a beaucoup d'adultes qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui ne comprennent pas et qui ont une certaine appréhension vis-à-vis de l'ordinateur, quoi. Il y a besoin.
Ça, on le voit, il y a un sérieux besoin. On le voit aussi d'un autre côté quand on organise des crypto-parties et d'autres choses. Exact. Que faut-il amener? Des gâteaux, un PC, un bonbon ou un sort?
Ouais, c'est ça. On vient avec ses bonbons, un gâteau et éventuellement un PC. Mmh.
Et du coup, vous installez l'environnement ?
Alors, Scratch, en fait, c'est en ligne. Donc, il n'y a rien à installer. Mmh. Si on rentre un peu dans la technique, Scratch, ça fait effectivement 6-7 ans que ça existe. La première version, c'était un gros exécutable composé sur Windows.
Un truc en flash.
La deuxième version était du flash.
Elle est en train de sortir.
Et la troisième, qui est annoncée pour le mois de janvier. Il y a des bêtas qui sont en ligne.
Les bêtas sont déjà bien fonctionnelles.
Voilà. Donc là, la troisième version, Scratch version 3, fonctionnera sur n'importe quel ordinateur pourvu d'un navigateur et d'HTML5. Donc, du coup, même les tablettes américaines vont pouvoir faire du Scratch sur des tablettes américaines.
Je tiens à préciser même qu'on peut faire des applications sur Android à partir de Scratch. Ça m'avait scotché. Et parce que j'étais allé à Paris Web il y a 3 ans et on m'avait fait une démonstration justement d'apprentissage au code aux enfants. Et il disait, on récupère en fait les alarmes anti-vol des vêtements qui sont c'est du NFC, c'est comme les cartes bancaires en paiement sans contact. Et donc on apprend aux enfants à utiliser le téléphone pour biper et des tags et programmer des événements à partir de ça. On le fait en Scratch et ça fait un exécutable sur Android. C'est impressionnant ce qu'on peut faire avec, quoi.
Alors, il y a une belle communauté. Il faut savoir que c'est quand même un projet financé par le MIT.
Ouais, qui est toujours derrière.
À coût de millions de dollars.
Le site, équipe, d'ailleurs, c'est toujours scratch.mit.edu.
Tout à fait, ouais. Et là, ils ont une équipe à la fois de pédagogues, d'informaticiens, de psychologues et... Enfin, c'est pas par hasard, quoi. C'est vraiment de très très haut niveau, quoi. C'est cet outil-là. Et donc, il n'y a même pas besoin de le déployer. On peut s'en servir à la maison. On peut partager ses projets avec ses amis, ses copains. On peut remixer. Hein. C'est le terme qui est utilisé, quoi. Avec Scratch, on peut hacker. Mais eux, ils appellent ça remixer. C'est vrai que ça
a une connotation.
Voilà, ou forquer des projets, qui a une connotation plus douce, on va dire. Nous on les pousse à hacker.
Remixer Scratch, c'est un peu le rap et tout.
Ouais, de toute façon, il faut regarder à l'intérieur, quoi, pour comprendre comment ça marche. Il faut regarder à l'intérieur, il ne faut pas hésiter à démonter et améliorer, quoi.
Quelle est la durée d'une session de
coding goûté, c'est 1h30-2h, plus un petit goûter, plus 1 heure de plus éventuellement. Ouais, ça fait entre 2 et 5, quoi, de 14h à 17h globalement.
On l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que Solarus et moi, on co-organise des crypto-parties sur Toulouse. On avait monté avec Eugène, celui qui avait mis le bordel tout à l'heure, un atelier pour les enfants justement avec Scratch, avec des jeux. Et on a eu des parents étonnés qui disaient « Ah bon, il aime programmer, mais il est nul en maths. » Qu'est-ce qu'on peut leur répondre ?
Rien à voir. C'est comme s'il faisait un beau dessin et on disait bah, il est nul en maths, comment il arrive à dessiner, quoi. La programmation et les mathématiques sont deux disciplines totalement différentes. Nous, on fait des ateliers auprès des autistes. On pourrait croire que ils ont du mal à se tenir debout, à rester concentrés pendant plus de 5 minutes. Ben, on s'aperçoit que quand on leur fait faire de la programmation, ça gomme la pathologie, quoi, et on arrive à tenir. J'allais dire éveiller, non, c'est pas ça, mais garder l'attention de gamins qui habituellement ont du mal à rester attentifs plus de quelques minutes. Et pendant 2 heures, ils vont être derrière et ils vont faire leur jeu exactement comme les autres. Non, le matin, enfin pour moi, on peut apprendre les maths avec l'informatique. On peut faire de l'informatique sans faire de maths, quoi. Enfin, ça dépend des projets, quoi. Si on veut faire tourner un truc, autour d'un. Si on veut faire des beaux dessins à base d'ellipses, etc. Oui, pourquoi pas. Enfin, quelques formules mathématiques peuvent aider, mais pas obligé.
Vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile. Et donc, nous sommes avec François de Rochebrune, fondateur des Coding Goûté sur Toulouse et fondateur président de la Compagnie du Code. Dites-moi, y a moyen justement de vous rejoindre à la Compagnie du Code ?
Alors oui, complètement. Déjà en termes de structure, la Compagnie du Code, c'est une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Donc c'est pas une association, c'est pas une société commerciale, c'est un objet hybride entre les deux qui permet de faire appel au bénévolat. Et le fonctionnement aujourd'hui de la Compagnie du Code est principalement basé sur le bénévolat. Donc oui, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous retrouver place Roquelaine, rue Matabiau, 62 rue Matabiau. C'est l'information.
C'est juste à côté.
C'est juste à côté. C'est,
on est à 50 mètres radio éphémère là, donc c'est juste de l'autre côté du canal. Voilà.
Exactement. Et donc voilà, tout le monde peut rentrer. On a besoin de forces vives, de si vous avez des projets, que vous, il n'y a pas forcément besoin d'être informaticien. On travaille sur l'informatique créative, donc si vous êtes musicien, si vous avez envie de faire des choses, de montrer aux enfants, c'est possible aussi. Et sinon, sur Internet, bien sûr, lacompagnieducode.org.
Est-ce que c'est facile d'expliquer aux parents que oui, un enfant, ça peut aller vers un échec dans un atelier et que ce n'est pas grave, qu'il n'y a pas besoin de réussir à chaque fois?
Oui, en même temps, c'est la démarche du programmeur, quoi. Tout le temps, quoi. On essaye, on pose des lignes de code, on les teste, ça marche pas, on les corrige, on recommence. La programmation, c'est une succession d'échecs.
Encore plus quand on programme des robots, hein, ça tombe.
Après, il faut faire attention, c'est pour ça que ça dure parfois des années. C'est-à-dire, quand on programme un Airbus, on fait un peu plus attention parce que l'échec, ça fait mal.
Ça fait mal, ouais. Ça fait mal.
Mais ouais, non, c'est le principe, c'est la démarche intellectuelle qui consiste à essayer de simplifier la complexité, quoi. Et donc on n'y arrive jamais du premier coup, quoi. Il faut réessayer, faut tester. C'est une bonne démarche pour régler des problèmes plus généraux que juste des problèmes d'informatique, quoi, cette démarche.
Quand tu vas voir ta famille et qu'il y a des petits-neveux, des petits arrière-cousins, etc., c'est forcément « Ah, il va t'apprendre à programmer ?»
Non, je l'ai fait une fois ou deux,
c'est le week-end, là.
Non, et puis, non, mais surtout, il faut qu'ils en aient envie aussi, quoi. Faut pas les forcer, donc... Mais bon, une partie de mes petits-neveux, quand même, sont passés au coding goûté, j'avoue. Mes enfants étaient trop grands, déjà, là, c'est dommage, mais...
Ah. Et ils participent en tant qu'animateur ?
Alors oui, ben j'ai transmis le virus. Mon fils est informaticien comme moi, le pauvre, il a mal tourné lui aussi.
Oh mince.
Et j'essaye de le ramener dans le droit chemin en lui disant « Allez, viens te reprendre en animant des coding goûtés. C'est sa punition. »
Ça changera des 2S2I sûrement. Est-ce que tu as eu un kiff énorme lors d'un coding goûté, le truc que tu pensais pas et que... Waouh!
Il y en a eu plein. C'est d'imaginer ce que je disais. On leur donne un cahier des charges, c'est un jeu de labyrinthe. Un petit bonhomme qui doit se déplacer avec les quatre flèches dans un labyrinthe qui doit aller du point A au point B. Moi, à chaque fois qu'un jeu est terminé, j'hallucine parce que, enfin, je sais pas, depuis 4-5 ans, on a vu passer pas loin de 2000 enfants qui ont tous fait un labyrinthe avec la compagnie du code et il y a 2000 jeux et à chaque fois qu'on en voit un autre, ben voilà, quoi, soit ils ont inventé en termes de cinématique, on leur dit d'utiliser les quatre flèches, mais ils préfèrent utiliser d'autres touches, on supprime des vies, mettre des chronomètres, mettre des pièces à ramasser. Enfin, il y a pas deux jeux identiques et de voir d'où est provenu, d'où est. Hey, Daskritch, il est tard.
Oui, je te conseille.
On est le matin, mais d'où provenait cette imagination débordante, quoi. C'est un gros kiff, ouais, de voir ça. Ouais.
François, quand est-ce que tu considéreras que tu as atteint un but et que tu peux peut-être passer à autre chose?
Bah, il est temps que j'arrête l'informatique, ouais, de toute façon. Ouais. Donc, je sais pas. Je sais pas. Non, ça me passionne encore, quoi. Donc, encore un petit moment.
Tant mieux. François de Rochebrune, merci d'être venu.
Merci à toi.
Merci vraiment d'avoir ouvert justement cette émission de rentrée sur une belle thématique. Et on espère, on va se revoir, je pense, 21 et 22 à propos de la course des robots et peut-être un coding goûté. Peut-être qu'on ferait l'effort d'ailleurs de participer, ce serait quand même assez drôle. En tout cas, la compagnie du code, on ira les voir puisqu'ils sont tout juste à côté.